Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Quand on fait de l'histoire des sciences antiques que certains savoirs sont transmis sur des manuscrits recyclés, aussi appelés palimpsestes, un texte peut souvent en cacher un autre. C'est justement dans deux palimpsestes que des chercheurs ont récemment retrouvé la trace du tout premier catalogue d'étoiles de l'humanité, écrit par l'astronome grec Hipparque, ainsi que d'un curieux mode d'emploi, celui d'un instrument scientifique conçu par Claude Ptolémée. Science Chrono vous raconte aujourd'hui cette aventure de l'archive perdue et son apport considérable à l'histoire de l'astronomie antique. Bonjour Victor Guisembert.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique à Sorbonne Université. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS 2023 et vous êtes le co-auteur des deux études récentes qui ont permis de remettre au jour ces deux textes antiques écrits par Hipparque et Ptolémée. Alors on va évidemment parler de cette aventure scientifique qui vous a conduit à révéler ces deux textes fragmentaires qui apportent une eau particulièrement précieuse au moulin de l'histoire des sciences. Mais avant cela, vous le savez, dans Science Chrono, on démarre chaque émission par l'écoute d'une archive. Quoi de mieux aujourd'hui que d'entendre ces textes anciens qui ont été exhumés grâce à vos travaux, Victor Guisembert. À votre demande, nous les entendrons lus en version originale, donc en grec ancien, lu par Kali Janelos, mais aussi en français par Laurent Blampin. Le premier texte que vous entendrez est celui extrait du catalogue d'étoiles d'Hipparque, et le second, après une légère respiration, est le mode d'emploi du météoroscope de Ptolémée.
Ο Στέφανος εν το βορείο ημισφαιρίο κείμενος, κατά μήκος μεν επέχει μοίρας εννέα και τέταρτον.
La couronne boréale, qui se trouve dans l'hémisphère nord, s'étend en longueur sur 9 degrés 1 quart depuis le premier degré de Scorpion jusqu'à 10 degrés 1 quart du même signe zodiacal. En largeur, elle s'étend sur 6 degrés 3 quarts depuis 49 degrés à partir du pôle nord jusqu'à 55 degrés 3 quarts.
Προηγείται μεν γάρ εν αυτό, ο εχόμενος του λαμπρού, ως προς δύσιν επέχον του σκορπίου της πρώτης μοίρας το ίμιση.
En son sein, l'étoile à l'ouest de la Brillante mène à Scorpion un demi-degré. La quatrième étoile à l'est de la Brillante est la dernière à se lever à 49 degrés du pôle Nord.
Νοτιότατος δε ο τρίτος από του λαμπρού προς ανατολάς αριθμούμενος.
La plus au sud est la troisième en comptant vers l'est à partir de la Brillante et elle est à 55 degrés 3 quarts du pôle Nord.
Είτε απαλαμβανωμένη αυτού περιφέρεια, η μεταξύ του τελείου και του κατακορυφήν υποτείνουσα.
De quelle manière il faut examiner les angles καταβατικοί et antischios à la latitude hypothétique. On mesure l'arc de l'anneau omnidirectionnel qui est délimité par le soleil et le zénith, lequel arc sous-tend l'angle que nous avons dénommé katabatiké, ainsi que l'angle complémentaire à celui-ci. Et, en outre, l'arc de l'horizon délimité par le méridien et l'anneau omnidirectionnel, lequel sous-tend l'angle dénommé antischios par les anciens.
Voilà pour ces deux extraits de textes antiques. Victor Guisembert, une première question qui va révéler un petit peu la cuisine interne de la préparation de cette émission. C'est vous qui m'avez suggéré qu'on entende ces textes lus dans leur version originale, en grec ancien. Qu'est-ce qui vous semblait aussi important dans le fait de les faire entendre dans la langue dans laquelle ils avaient été écrits?
Je dois dire que c'est assez émouvant d'entendre ces passages en grec ancien à la radio. On n'a pas l'occasion tous les jours. Le grec ancien, comme toutes les langues anciennes, est une sorte de machine à voyager dans le temps. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les élèves des collèges et des lycées sont très demandeurs d'apprendre les langues anciennes. On le constate tous les jours.
Et tous les samedis, on vous propose d'ailleurs voilà, d'être une machine à voyager dans le temps des sciences. Donc c'est parfait de pouvoir commencer avec ces textes anciens, lus en grec ancien par Kali Janelos et traduits par Laurent Blampin. Victor Guisembert, avant de rentrer dans le détail du contenu de ces textes, je parlais de palimpseste en début d'émission. J'aimerais qu'on décrive les objets, les manuscrits dans lesquels ces deux extraits-là ont été découverts, à quel type d'ouvrage ils appartiennent.
Alors le catalogue d'étoiles a été découvert dans un manuscrit de parchemin, un parchemin qui date des alentours du VIe siècle. C'est donc des peaux d'animal qui ont été traitées pour qu'on écrive dessus. Et on y voit plusieurs couches d'écriture, y compris à l'œil nu, sur la plupart des pages en tout cas. Aujourd'hui, ces parchemins sont déliés, ils sont d'ailleurs dispersés dans différentes collections à travers le monde. Quant au manuscrit de Ptolémée, il est conservé à la bibliothèque ambrosienne à Milan, en Italie. C'est aussi un manuscrit en parchemin, palimpseste lui aussi, et on voit tout à fait les couches d'écriture différentes. On voit en plus une couleur brune caractéristique des produits chimiques qui ont été utilisés au XIXe siècle pour rendre ce manuscrit plus lisible.
On y reviendra bien sûr à ces usages de produits chimiques au XIXe siècle pour déjà percer le mystère de ces palimpsestes. Ce manuscrit de Ptolémée, il a fait une escale par l'abbaye de Bobbio en Italie, qui est assez célèbre pour avoir inspiré à Umberto Eco le nom de la rose, ou en tout cas d'avoir servi de cadre imaginaire à Umberto Eco pour le nom de la rose, là, ça c'est l'anecdote, mais on peut parler de cette pratique du palimpseste parce qu'elle est assez intéressante. Comment, finalement, les moines, et pour quelles raisons, les moines au VIe siècle décidaient à certains moments d'effacer le contenu des textes écrits sur ces feuillets-là pour le recouvrir de nouveaux contenus?
Tout à fait. Alors nous savons que le manuscrit de Ptolémée a été recyclé à l'abbaye de Bobbio, en Italie du Nord, dans une région qui conservait encore énormément de manuscrits antiques, lesquels n'étaient plus forcément compréhensibles ou plus jugés intéressants. Et en revanche, leur matière première, le parchemin, était précieuse, était souvent en pénurie, surtout à cette époque en Italie du Nord. Et donc cette opération de recyclage visait vraiment à fournir la matière première du manuscrit nouveau projeté. D'ailleurs, c'est assez intéressant, dans ce manuscrit, on constate que les feuillets sont vraiment de formats tout à fait différents, et donc on peut tout à fait dire que les moines de Bobbio ont fait feu de tout bois, ont vraiment récolté tout le matériau, ils devaient faire face à une véritable pénurie de parchemin pour finaliser leur copie.
Par quoi les deux textes qu'on a entendus au début de l'émission ont été recouverts? Qu'est-ce qui est venu s'ajouter à ces textes-là et par quoi ils ont été remplacés?
Alors dans les deux cas, il s'agit de textes religieux. Le manuscrit de Ptolémée a été recouvert par un traité du pape Grégoire le Grand en latin. Il s'agit donc d'une coexistence de plusieurs langues dans les différentes couches. Et le manuscrit d'Hipparque, enfin contenant les fragments d'Hipparque, a été recouvert par un traité monastique en syriaque qui s'appelle « L'échelle du paradis » par Jean Climac.
Jean Climac qui était un moine syrien qui a été un maître spirituel chrétien. Ces textes-là, est-ce qu'ils ont été effacés parce que pour les moines, ils n'avaient aucun intérêt, ou bien est-ce que tout simplement les moines ne les comprenaient pas et se sont dit « Ça n'a aucun intérêt, donc on l'efface. »
Alors, dans le cas de Ptolémée, c'est certainement surtout parce que le manuscrit était incompréhensible. Il était en grec ancien, une langue qui n'était plus parlée à l'époque de la copie du texte supérieur, et il traitait de sujets très techniques qui devaient sembler absolument incompréhensibles. Dans le cas des fragments d'Hipparque, la question se pose. On peut, par exemple, aussi avoir des manuscrits qui étaient jugés endommagés, et donc on les recyclait à cause de leur état matériel et non pas à cause de leur contenu.
Comment les moines s'y prenaient-ils pour effacer ces textes-là? Parce que j'ai l'impression que c'était un travail assez laborieux, c'était pas un coup de gomme, c'était vraiment un travail très patient et très laborieux.
Tout à fait. Alors l'encre dans le parchemin pénètre vraiment comme un tatouage, c'est-à-dire en profondeur. C'est donc très laborieux. On conserve des recettes médiévales qui nous expliquent, par exemple, qu'il faut d'abord tremper le parchemin pendant toute une nuit dans une solution avec du lait et différents autres ingrédients. Ensuite, on utilise un abrasif, notamment de la pierre ponce ou alors une lame métallique, mais souvent c'est de la pierre ponce et on en voit les traces à la surface. Et enfin, on recouvrait de poudre blanche, par exemple de la farine, pour donner un aspect comme neuf à ce parchemin.
Voilà pour la présentation de cette technique des palimpsestes qui sont un petit peu comme des sols avec des multiples strates et par endroits il y a des affleurements d'anciennes strates et des chercheurs comme vous peuvent s'appuyer sur ces affleurements pour aller comprendre l'origine de ces textes disparus, effacés ou en tout cas un peu comme des spectres qui apparaissent ça et là dans ces palimpsestes. On a entendu depuis le début de cette émission les deux grands noms de ces savants grecs, Hipparque, Ptolémée. Victor Gisembert, est-ce que vous pourriez nous présenter ces deux figures-là, les époques auxquelles vivaient ces deux savants et leur rapport connu à l'histoire des sciences astronomiques.
Alors Hipparque était un astronome et géographe du IIe siècle avant notre ère. Il avait des liens avec la cité de Nicée, aujourd'hui Iznik en Turquie, et il était actif à différents endroits du bassin méditerranéen. Il est principalement connu pour sa mesure de la précession des équinoxes, un phénomène pluriséculaire qu'il a contribué à mesurer de manière précise. Quant à Ptolémée, c'était un savant universel, certainement un des plus grands esprits scientifiques de l'Empire romain. Il nous a laissé plusieurs traités d'astronomie, notamment l'Almageste, qui est une sorte de synthèse de toutes les connaissances astronomiques de l'Antiquité, mais aussi des ouvrages de géographie, de mathématiques, de philosophie et aussi d'astrologie.
On va venir tout à l'heure à l'importance cruciale qu'a eu ce catalogue d'étoiles, notamment d'Hipparque, dans l'histoire de l'astronomie. C'est une découverte vraiment très très considérable que vous avez pu réaliser. Mais avant cela, j'aimerais comprendre ce qui vous a mis sur la piste de cette redécouverte des textes. Quels ont été les premiers éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé, vous et vos collègues, pour vous dire, ah tiens, on tient peut-être quelque chose d'intéressant et d'instructif dans le cadre de nos connaissances sur l'histoire de l'astronomie?
Alors l'histoire ne commence pas avec moi, il s'agit de manuscrits qui sont connus et étudiés depuis longtemps. Pour moi, l'histoire commence en 2018-2019, quand un collègue, Alexander Jones, m'a suggéré de m'intéresser au palimpseste où nous avons découvert le traité de Ptolémée, un palimpseste qu'il avait étudié avec les moyens traditionnels et dont il pensait qu'on pourrait faire de belles découvertes avec l'imagerie multispectrale, une technologie dont on reparlera. Donc, un premier projet que j'ai monté a permis, en effet, de réaliser des images multispectrales et en quelques jours, nous avons identifié un nouveau traité de Ptolémée. S'est en suivi une seconde campagne d'imagerie et le déchiffrement est toujours en cours. Mais dans la foulée de ces travaux, j'ai été contacté par Peter Williams de Tyndale House à Cambridge, qui avait entendu parler de ces travaux, donc, et il se trouve que lui était tombé un peu par hasard dans le Codex Climacere Scriptus, un palimpseste célèbre, sur ces indications de degrés liés à des noms d'étoiles, et il se demandait ce que ça signifiait. Le palimpseste était connu pour des contenus bibliques qui avaient été effacés, c'est cela qui l'avait intéressé, il était responsable d'un projet de déchiffrement intégral, mais il avait eu la surprise de trouver quelques folios astronomiques. Il m'a donc contacté en mars 2021. Et quand j'ai vu ces indications de degrés, des noms de constellations, j'ai tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir du catalogue d'étoiles d'Hipparque, parce qu'on voyait bien qu'il ne s'agissait pas du seul catalogue conservé qui est celui de Ptolémée, intégralement conservé, et tout simplement les mesures ne correspondaient pas, les coordonnées ne correspondaient pas. J'ai donc demandé à tout le monde autour de moi d'arrêter séance tenante les autres travaux, et on s'est concentré là-dessus.
Oui, parce que là, vous venez mettre un terme à des siècles de mystères en histoire des sciences de l'astronomie antique, à savoir, est-ce que ce catalogue d'étoiles d'Hipparque existe ou non, ou bien est-ce que Ptolémée, d'une certaine façon, l'a inventé? Ça, c'est vraiment, là, pour le coup, l'un des apports très, très importants de cette découverte, c'est de dire, oui, il y a bien eu un catalogue d'étoiles produit par Hipparque.
Tout à fait. Alors, on avait par exemple un témoignage de Pline l'Ancien, un encyclopédiste de l'Empire romain, qui nous racontait qu'Hipparque aurait composé une sorte de liste des étoiles. Mais d'abord, Pline l'Ancien confond parfois ce qu'il lit dans ses sources. Et puis, l'indication n'était pas très précise. Il pouvait s'agir d'une petite liste. Là, on voit vraiment que Hipparque a tenté de recenser l'intégralité des étoiles visibles et qu'il en a donné des coordonnées mathématiquement précises, le plus exact possible.
Parce que c'est ça qui est très, très important à comprendre avec Hipparque, c'est qu'il n'avait pas de lunettes astronomiques, il observait tout à l'œil nu. Il était sans doute pas seul dans cette entreprise, mais il a établi l'un des catalogues les plus conséquents et les plus précis, avec des mesures qui sont encore vérifiables au degré près aujourd'hui d'étoiles dans le ciel. Voilà, là on comprend vraiment que ce catalogue-là a une importance capitale. Il fait pas que ça, cette découverte ne fait pas que ça. Elle vient aussi laver d'une certaine façon Ptolémée d'une accusation de plagiat. Expliquez-nous cette accusation-là.
Depuis des siècles, on s'interroge sur l'intégrité scientifique de Ptolémée, malgré ses grandes qualités de chercheur et de professeur d'astronomie, on suppose notamment qu'il a plagié le catalogue d'étoiles d'Hipparque, c'est-à-dire qu'il en a recopié les indications sans indiquer la source. Aujourd'hui, on peut comparer les deux catalogues et on voit que effectivement, Ptolémée a parfois réutilisé exactement les mêmes coordonnées qu'Hipparque. En ce sens, il s'agit d'une citation parce que il a aussi utilisé d'autres sources. On voit bien qu'à plusieurs reprises, il s'écarte tout à fait d'Hipparque. Et alors, ça ouvre des questions très intéressantes sur la manière dont travaillaient les astronomes antiques. C'est vraiment un aperçu dans leur observatoire. Comment Ptolémée décidait-il de suivre Hipparque à telle occasion et à une autre occasion de recourir à une autre source de données, peut-être à ses propres sources d'observation?
Oui, c'est là où on a un aperçu finalement de l'émergence d'une sorte de méthode scientifique astronomique avec ce travail finalement de comparaison qu'on peut réaliser grâce à la découverte du catalogue d'Hipparque entre ce catalogue-là, le catalogue de Ptolémée. Finalement, comme un savant d'aujourd'hui, il mobilisait plusieurs sources, il avait voilà plusieurs sources à disposition pour lui-même constituer son propre catalogue.
Tout à fait, c'est un travail vraiment très empirique qui cherche à rendre compte au plus près de la réalité, qui devait représenter d'ailleurs un nombre d'heures de travail incalculable.
Est-ce qu'on a une idée, grâce à vos travaux, de la période à laquelle ont été écrites ces lignes qui ont refait surface à partir de vos travaux d'imagerie?
Alors, Hipparque était actif au IIe siècle avant notre ère, et on voit que les coordonnées d'étoiles correspondent à cette époque. On le voit sur la base justement d'un calcul de précession des équinoxes, donc un mouvement des constellations qui a lieu sur l'échelle de plusieurs siècles, et donc ça correspond bien à l'époque à laquelle travaillait Hipparque. Ensuite, le manuscrit lui-même a été écrit apparemment plutôt au 6e ou au 7e siècle, donc il y a vraiment quasiment 1000 ans d'écart entre l'auteur et le manuscrit.
Gloire et honneur sont donc rendus à Hipparque grâce à vos travaux mobilisant des technologies très très contemporaines, Victor Gisembert. On va parler maintenant, bien sûr, de ce second personnage, Ptolémée.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Oui, car c'est non pas de une, mais de deux découvertes dont on parle aujourd'hui dans Science Chrono. Et cette deuxième découverte, on l'entendait dans l'archive tout à l'heure, Victor Gisembert, c'est ce mode d'emploi d'un outil qui est baptisé le météoroscope. Alors à quoi il ressemble, à quoi il sert et qu'est-ce que nous apprend aussi ce mode d'emploi un peu austère et fragmentaire?
Le météoroscope, c'est une sphère armillaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de 9 anneaux enchâssés. Et donc on peut faire tourner ces anneaux les uns autour des autres pour effectuer toutes sortes de mesures. Il s'agit d'un type d'instrument qui a continué à être en usage jusqu'au XVIe siècle. Par exemple, il est représenté sur le drapeau du Portugal. Dans le cas de Ptolémée, on savait que cet instrument existait. Il en parle dans ses autres traités, mais on n'avait pas de description directe de l'instrument. Donc là aussi, ça confirme son existence. Et il s'agit, puisque on ne conserve pas d'instruments archéologiques du type d'une sphère armillaire, on conserve très peu d'ailleurs de sources archéologiques sur le travail des scientifiques dans l'Antiquité. On n'a aucune idée de ce à quoi ressemblaient leurs observatoires. Grâce à ce traité, on peut donc reconstruire la manière concrète dont travaillaient les astronomes.
C'est ça qui est très intéressant dans cette découverte, c'est que d'une certaine façon, ça fait revivre un peu ces savants-là, qui sont souvent présentés comme des commandeurs sur leur piédestal, des statues de marbre un peu, voilà, qui sont des figures tutélaires. Mais là, on a vraiment un aperçu de leur vie dans leur observatoire. Et ce texte-là, autour du météoroscope, n'est pas du tout anecdotique. Au contraire, il nous donne un aperçu concret, technique, très pratique de la pratique de l'astronomie durant cette période antique.
Alors les philosophes grecs eux-mêmes débattaient du rapport entre la théorie et l'observation. Les platoniciens, pour aller un peu vite, tendaient à privilégier le travail purement théorique, tandis que d'autres écoles insistaient sur l'aspect vraiment pratique. Là, on voit bien en tout cas que les deux allaient de pair. On peut s'interroger sur la manière social dont ce travail était organisé. Est-ce qu'il bénéficiait de mécénat par les souverains, par exemple, ou est-ce qu'il était, disons, financé par d'autres moyens?
Est-ce qu'ils étaient aidés aussi dans leur pratique par des assistants, par des esclaves éventuellement?
Tout à fait. On aimerait en savoir plus sur ces invisibles qui ont certainement mis la main à la pâte, parce que, encore une fois, par exemple, un catalogue d'étoiles, ça implique, pour être précis, de répéter les mesures plusieurs fois à l'œil nu, et donc il faut sans doute une équipe.
Cette découverte que vous avez réalisée avec vos collègues, Victor Gisembert, elle signe un double apport à l'histoire des sciences. Non seulement, on l'a compris, l'apport à l'histoire des sciences de l'astronomie et à sa meilleure compréhension, mais aussi un apport technique et la validation, alors si tant est qu'il fallait une validation de cette technologie dont vous parliez tout à l'heure, de l'imagerie multispectrale. Est-ce que vous pourriez maintenant nous en toucher deux mots et nous dire comment ça fonctionne et comment, grâce à plusieurs longueurs d'onde, on va pouvoir sonder ces palimpsestes?
Alors, le principe de l'imagerie multispectrale est assez simple. On photographie en effet un objet à différentes longueurs d'onde. On mesure ce qui est réfléchi, la lumière qui est réfléchie. On mesure aussi la fluorescence, c'est-à-dire la lumière qui est réémise. Enfin, on mesure comme ça sous différentes modalités et sous différents éclairages, ce qui nous donne des données brutes. La plupart du temps, ces données brutes ne suffisent pas. Il faut ensuite les traiter avec des algorithmes de traitement d'image qui permettent, en fin de chaîne, de déchiffrer vraiment beaucoup plus que ce qu'on est capable de lire à l'œil nu. Et vous parliez de validation. Bon, une des questions qu'on avait au départ, c'était sur les produits chimiques. Est-ce que l'imagerie multispectrale peut fonctionner sur ces manuscrits enduits de produits chimiques?
Enduits de produits chimiques au 19e siècle par des chercheurs qui, comme vous, essayaient de comprendre le contenu de ces palimpsestes et qui, en voulant bien faire, ont finalement dégradé ces objets-là.
Tout à fait. Donc, au 19e siècle, les chercheurs, effectivement, utilisaient ces produits chimiques et sans savoir ou malgré le fait que, sur le long terme, ils ont un effet corrosif. Et il s'agit d'un problème qu'on constate dans toutes les bibliothèques d'Europe où les manuscrits palimpsestes les plus célèbres ont subi ce traitement. Je pense que nous sommes parmi les premiers à avoir montré que l'imagerie multispectrale est une manière de sauver ces manuscrits-là en particulier, et puis tous les palimpsestes qui sont généralement assez fragiles.
Alors ces palimpsestes, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'on en connaît beaucoup? Est-ce qu'ils sont largement sous-exploités actuellement par les historiens des sciences?
Alors, il y a des milliers de palimpsestes dans les seules bibliothèques européennes, dans toutes les langues possibles, hein, le latin et le grec, mais aussi l'arabe, le syriaque, l'hébreu, des langues vernaculaires. Et en effet, nous avons à peine effleuré la surface par rapport au nombre de palimpsestes qui existent. Il faut dire en plus que parfois, des manuscrits qui semblent tout à fait normaux, entre guillemets, se révèlent palimpsestes quand on les soumet à l'imagerie multispectrale. Donc, en principe, il faudrait vraiment pouvoir utiliser cette technologie sur l'ensemble des manuscrits. Elle a d'ailleurs aussi d'autres intérêts que seulement le déchiffrement de textes. Elle peut nous renseigner sur les pigments, sur les illustrations, vraiment sur énormément de problématiques de ces sources manuscrites.
Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ces palimpsestes. Moi, il y a un autre élément qui m'a intrigué. Quand je préparais cette émission, je me suis dit, mais finalement, ces moines-là, ils n'avaient pas du tout le même rapport au savoir que nous, on a. Nous, on a un rapport plutôt patrimonial, de conservation. On ne va pas penser à effacer quelque chose, peut-être de façon totalement irréversible. Ça nous heurte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette pratique du palimpseste, sur l'évolution même du rapport au savoir?
Alors, je pense que toutes les cultures pratiquent un droit d'inventaire. Nous aussi, parfois, nous décidons quand même que certaines archives, finalement, ne valent pas la peine d'être entretenues. Alors, entretenir des manuscrits, ça veut dire de toute façon les copier. Il faut avoir vraiment une démarche active. Sinon, au bout de quelques siècles, ils vont dépérir. Je crois que pour les moines de Bobbio, certains manuscrits semblaient simplement révolus, appartenir à une culture disparue, dans une langue qu'ils ne comprenaient plus, avec des centres d'intérêt qui ne leur évoquaient rien du tout. Donc, j'y verrais plutôt une continuité épistémologique de cette pratique d'inventaire culturel.
Mais ce qui est beau, c'est qu'avec les moyens modernes d'imagerie dont on dispose, on peut se replonger dans ces objets-là qui ne sont pas totalement perdus. Quelles pistes vous suivez actuellement, sur quels autres palimpsestes éventuellement vous planchez pour percer à jour leur mystère?
Alors, on a aussi eu la chance de découvrir à la bibliothèque capitulaire de Vérone, une des plus anciennes bibliothèques en activité dans le monde, un palimpseste philosophique qui est un résumé en latin des dialogues de Platon et une introduction au platonisme à destination des élites cultivées de l'Empire romain. Donc c'est un document absolument unique qui nous renseigne de manière très explicite sur ce qu'était la philosophie, comment elle était enseignée, comment elle était pratiquée réellement dans l'Empire romain.
C'est ça qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire des sciences qui est concernée, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la religion, l'histoire de la littérature, l'histoire des arts en général. Donc merci beaucoup en tout cas Victor Gisembert d'être venu aujourd'hui nous parler de vos travaux. On vous souhaite de réaliser encore de nombreuses découvertes dans tous ces palimpsestes qui ne demandent qu'à dévoiler leurs secrets. Up to the Stars par DuckTales pour clore notre émission étoilée Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Mariam Ibrahim et à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Grégory Wallon, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Just look at